Et avec Alexandra Ben Saïd, nous recevons ce matin dans le grand entretien du 7-9 le secrétaire national sortant du Parti communiste, sénateur de Paris. Intervenez au 01 45 24 7000 sur les réseaux sociaux et via l'application France Inter. Pierre-Laurent, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être dans ce studio de France Inter. Le prochain congrès du PC à partir de demain devrait entériner ce changement de direction. C'est le député du Nord, Fabien Roussel, qui devrait vous succéder. Resteriez numéro 2, je ne sais pas si le terme est bien choisi, numéro 2 du parti à la tête de son parlement. Expliquez-nous pour commencer cette évolution, Pierre-Laurent. Vous passez simplement la main à une autre génération via un jeu de chaises musicales, ou alors le parti est divisé entre deux voire trois lignes. Que se passe-t-il ?
Non, il y a un vrai changement de génération qui était entamé, hein, dans les groupes parlementaires du parti. Il y a beaucoup de jeunes parlementaires, hommes et femmes au Sénat, à l'Assemblée nationale, et puis dans les fédérations, dans les départements aussi, il y a la montée d'une nouvelle génération, donc il y avait une demande de renouvellement qui était forte, qu'on essaye de faire en mêlant l'expérience et les nouvelles générations. Et puis effectivement, il y a un débat politique. Il y a un débat politique sur la manière dont il faut allier l'affirmation plus forte des idées communistes que nous croyons profondément nécessaire à la reconstruction de la gauche et toujours une politique d'unité, de rassemblement, parce que nous sommes très inquiets de la situation. Et la manière de manier ces deux choses a fait débat dans le Parti communiste, singulièrement après l'élection présidentielle dernière. Je pense qu'on est en train, on le verra dans le texte qui sera adopté finalement au Congrès, parce que ce texte a beaucoup évolué au fil de la discussion.
Et c'est pas fini,
on verra
encore
qu'il y a... ça discutait encore hier soir sur ce texte dans la commission qui s'occupe de ça. Mais finalement, on va vers une ligne qui a des aspects critiques sur les dernières années.
Donc sur votre bilan.
Oui, sur mon bilan, enfin sur celui de la direction sortante, mais qui en même temps, je pense, avance vers un bon équilibre entre l'affirmation communiste et le maintien d'une ligne unitaire de rassemblement.
Pierre-Laurent, que les choses soient claires pour tout le monde, vous passez la main ou on vous a poussé vers la porte ?
J'avais initialement
sans
proposé.
Langue de bois,
non, mais
j'avais.
Bon, c'est tout le monde le sait. J'avais initialement proposé de rester secrétaire national et d'aider la nouvelle équipe à s'installer dans les deux années à venir. J'avais donné comme échéance à peu près 2020 parce que c'est le moment où il faudra être prêt pour la prochaine élection présidentielle. Bon, c'est vrai qu'il y a eu une poussée pour que le changement se fasse plus rapidement. Bon, comme moi, j'avais pas non plus fait de ça une question taboue, parce qu'au Parti communiste, on s'accroche pas au poste. Bon, ben, je vais trouver une autre forme d'implication dans la direction. Je vais rester très impliqué dans
la
direction.
Vous serez numéro 2 ?
Ouais, on n'aime pas beaucoup ce genre de truc au Parti communiste, mais c'est un peu ça. Disons qu'on va conduire ensemble la liste de la direction. C'est Fabien qui devient le secrétaire national, et moi je vais présider ce qu'on appelle le Conseil national. Mais on va, je continuerai de jouer un rôle important dans la direction.
Elle est où finalement la ligne de dissension, on va dire, la raison pour laquelle vous prenez en effet un peu de recul ? Est-ce que c'est dans le rapprochement avec la France insoumise, peut-être ce chemin que vous avez fait ensemble et qui a affaibli le parti avec Jean-Luc Mélenchon ?
Oui, ça fait partie du débat, mais plus profondément, c'est quoi ce qui nous importe ? C'est que on voit bien la société capitaliste est en train d'entrer dans une impasse profonde. Et je pense, je l'ai déjà dit souvent, que dans ce siècle, on va se poser la question d'inventer un autre mode de développement. On le voit au plan social, au plan écologique. Et nous, on pense que les idées communistes d'aujourd'hui ont une grande modernité pour ça. Mais c'est vrai qu'on n'arrive pas à ce que ça se traduise par un renforcement de la place de nos idées et du parti, bien que ces idées grandissent. Je voyais dans l'Humanité de ce matin, il y a une société coopérative alternative aux plateformes qui est en train de naître, Mobicop, qui montre qu'il y a des gens qui cherchent d'autres modèles économiques. Donc il faut qu'on avance dans cette direction. Et c'est ça plutôt, ce paradoxe-là qui nous fait réfléchir sur pourquoi nous n'arrivons pas à traduire cette percée politique d'idées nouvelles dans l'influence du Parti communiste.
Mais sur les relations avec la France insoumise, ça aussi, il va falloir tirer ça au clair ? Il va falloir prendre une nouvelle ligne ?
Ça, c'est très clair, je dirais, du point de vue du Parti communiste. Nous, on pense qu'il n'y a pas d'alternative à un travail, une coopération, même si elle est traversée de débats, avec toutes les forces de la gauche nouvelle. Parce que si nous ne faisons pas ça, on va laisser la place à l'extrême droite. comme on le voit en Europe.
Mais...
Donc cette coopération, elle est nécessaire. Mais effectivement, on a des partenaires, notamment la France Insoumise, qui joue pas vraiment ce jeu-là, qui pour le moment pense, en tout cas la France Insoumise l'a pensé un temps, qu'à elle toute seule, elle allait occuper tout cet espace. Et ça ne sera pas le cas, parce que la gauche va rester pluraliste et le Parti communiste a un rôle très utile à jouer. Donc il faut que tout le monde retrouve le chemin de coopération politique
Mais Pierre-Laurent, la nouvelle ligne, ce sera quoi dans ce débat-là? Quelle relation avec la France insoumise? J'ai lu dans Le Monde qu'un cadre communiste disait de manière anonyme, la ligne, c'est de se faire respecter à gauche. C'est ça le sujet?
Oui, on a envie de se faire respecter. Il y a beaucoup de communistes qui ont été meurtris par l'élection présidentielle. Parce qu'effectivement, on a soutenu, et j'avais plaidé pour ça, la candidature de Jean-Luc Mélenchon après beaucoup de débats, justement parce que ce candidat, et je pense que ça ne l'a pas aidé à franchir la barre de la qualification au premier tour de l'élection présidentielle, n'a pas respecté les communistes qui pourtant le soutenaient, hein, et les a un peu traités, voilà. Donc il y a une demande de respect de nos idées, mais ce respect qu'on veut se voir manifester à l'égard de nos idées parce qu'elles sont utiles à la gauche, évidemment, nous, on veut aussi respecter les autres forces pour ce qu'elles sont. Et je pense que ces relations de coopération utile entre ces forces est le chemin indispensable pour reconstruire une gauche forte.
Alors on l'entend, il y a la stratégie politique pour reconstruire une gauche forte, et puis il y a les idées. Avec la France insoumise, expliquez-nous, vous dites qu'il faut respecter nos idées aussi. C'est quoi la différence cardinale, s'il y en a une, avec LFI?
Je pense que nous accordons une très grande importance à ce qu'on appelle, excusez-moi du jargon, la question de classe. C'est quoi? C'est que au cœur des difficultés, il y a un problème, c'est qu'il faut affronter la puissance du capital, et du capital qui est aujourd'hui multinational. Et il faut s'en donner les moyens. Et on ne contournera pas cette question. Et cette question-là, d'aller gagner du pouvoir dans la bataille sociale de l'entreprise, de ne pas laisser tout le pouvoir à ces grandes multinationales, pour nous, cette question-là, elle est essentielle. Pardon ?
Vous trouvez qu'ils sont mous là-dessus ?
Un peu, oui. Et j'ai vu parfois, à la France insoumise, théoriser l'idée que cette question-là, il fallait la relativiser aujourd'hui par rapport à d'autres questions.
La question des classes.
Par exemple, oui, même pour traiter la question écologique, on voit bien qu'on bute sur la puissance de ces multinationales qui imposent pas seulement leur exigence de rentabilité, mais même maintenant qui cherchent à imposer leur mode de vie à la société entière. Il faut reprendre du pouvoir par rapport à tout ça. Et la question de l'argent est au cœur de ça. Regardez, cette semaine, on a d'un côté les gilets jaunes, des gens qui n'arrivent pas, qui en ont marre qu'on matraque leur pouvoir d'achat, et de l'autre côté, Carlos Ghosn. Eh ben, pour moi, on a le résumé en une semaine de ce qui ne va pas dans le monde actuel.
Alors on va venir à chacun de ces dossiers, à la fois les gilets jaunes pour commencer, Carlos Ghosn juste après. C'est un mouvement dont on a dit qu'il était spontané, venu d'Internet, en dehors des syndicats, en dehors des partis politiques. On a vu que c'est au départ une revendication sur le prix des carburants, puis que ça change très très vite. Est-ce que vous diriez, comme le président de la République, Pierre-Laurent, que c'est un mouvement poujadiste? Ça existe dans l'histoire de France. Est-ce que ça ressemble à ça ou c'est tout à fait autre chose?
Non, moi je crois que c'est une grave erreur de jugement du président de la République. Le président de la République récolte en fait la colère qu'il a semée depuis le premier jour. Il a assumé sa politique en disant, avec beaucoup d'arrogance, en disant « on va servir les premiers de cordée et toute la société ». Va avancer derrière ça. Et il a mis en œuvre ça, la suppression de l'ISF, les cadeaux fiscaux, etc. Et pendant ce temps-là, il ne comprend pas, ou alors il ne veut pas le comprendre, qu'il y a des millions de gens, et pas seulement les plus en difficulté, mais en fait tous ceux qui travaillent, qui n'arrivent plus à s'en sortir et qui ne comprennent pas pourquoi on tape sur ceux qui travaillent. Et c'est ça, là, cette colère-là.
Donc c'est une lutte sociale, c'est pas du poujadisme, c'est pas une lutte idéologique.
Non, le premier accès de colère, il est venu des retraités. Quand il y a eu l'affaire de la... On se rappelle, tout le monde avait été surpris par la puissance des manifestations des retraités qui, d'un seul coup, sont descendus dans la rue. Cette alerte a été ignorée par le gouvernement, après beaucoup d'autres. Et les organisations syndicales avaient alerté sur le fait que, dans les entreprises, les luttes sur le pouvoir d'achat étaient en train de redevenir les luttes premières. Donc cette question, elle est montée depuis des mois. Le gouvernement n'a pas voulu l'entendre. Ça explose, excusez-moi, sur la question de l'essence. mais en fait, c'est une colère profonde sur la question du pouvoir d'achat.
Donc ça, c'est le constat. Mais sur la question de comment on en sort, ce matin, il y a deux propositions sur la transition écologique et comment elle peut être populaire. Il y a deux propositions sur la table. Il y a François Bayrou au Modem qui dit, et qui est partenaire de la majorité, qui dit il faudrait réfléchir à cette hausse des taxes en janvier. Il faudrait peut-être, sous-entendu, revenir dessus ou la moduler en fonction du prix du baril. Et puis vous avez François de Rugy, le ministre de la transition écologique, qui dit Laurent Berger, CFDT, il a peut-être raison. Il faut faire une conférence écologique, sociale. Et là, il dit peut-être pas un Grenelle, mais des débats dans les territoires. Pierre-Laurent, il y a une de ces deux propositions qui vous agrée.
Il faut faire les deux. Il faut réouvrir en grand le dossier du pouvoir d'achat. Alors, ça passe par le fait qu'effectivement, on cesse d'augmenter les taxes comme on le fait, mais ça passe par d'autres choses. Il faut réaugmenter les salaires dans les entreprises parce
qu'on vit dans un pays
où les salaires, c'est une question tabou.
Sur la taxe carburant, quand vous dites il faut moduler les choses, ça veut dire quoi? François Bayrou dit s'il y a des variations du prix du pétrole, à ce moment-là, on a une taxe flottante qui s'ajuste.
Il faut arrêter avec l'augmentation des taxes sur le carburant parce que c'est un prélèvement très injuste qui frappe indistinctement les gens, quel que soit leur niveau de revenu.
Mais là, vous vous rendez bien compte que si on veut aller vers moins d'émissions, c'est le signal prix.
Et ensuite, il y a le dossier écologique. Et si on veut traiter le dossier écologique, il faut le traiter dans son ensemble. Je rappelle une chose quand même, c'est quand la loi de transition écologique a été discutée, la question des transports ne faisait pas partie de cette loi. Nous l'avons dénoncée, nous avons dit mais pourquoi la question des transports ne fait pas partie du débat écologique? Et pourquoi elle ne faisait pas partie de ça? Parce que le gouvernement voulait au même moment faire la loi sur le ferroviaire. Donc ne voulait pas discuter du développement du service public ferroviaire. Parce que si on veut parler des émissions de gaz à effet de serre, il faut parler des camions sur les routes. Qu'est-ce qui encourage le développement du trafic fret par la route, qui est une catastrophe écologique? Eh bien, c'est le fait qu'on ne développe pas le transport public ferroviaire. Donc,
Faudrait un moratoire sur la fiscalité aujourd'hui, c'est ça? La fiscalité des carburants. Alexandra le disait, il va y avoir des hausses encore jusqu'à la fin du quinquennat et les prochaines sont pour début janvier. On fait quoi? On suspend cette perspective?
Si on veut de l'argent pour financer la transition écologique, on peut aller en chercher ailleurs. Par exemple, on propose de renationaliser les sociétés d'autoroutes. On les a privées, c'est Sarkozy qui les a privatisées. Au bout des concessions privées, on chiffre à 32 milliards d'euros les dividendes qu'auront empoché les sociétés de les concessionnaires privés des autoroutes. Ça, c'est les automobilistes qui payent. On n'a qu'à récupérer cet argent pour financer de la transition écologique.
Pierre-Laurent,
donc, si on veut aller chercher de l'argent, allons le chercher dans les poches de Total, dans les poches des sociétés.
Mais en janvier, pas dans les poches des Français, c'est ça qu'on comprend bien.
Pas dans les poches des Français qui n'arrivent pas à finir leur fin de mois.
Donc, faut arrêter toute hausse de taxes sur les carburants d'ici la fin du quinquennat, c'est ça que vous dites ce matin?
Oui, je pense que la hausse des taxes, qui est très injuste, n'est pas la voie pour conduire la transition écologique.
On a déjà une petite idée, on va en avoir une plus précise la semaine prochaine, de ce à quoi va ressembler la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, le sens de l'histoire. On verra donc le rythme, c'est de sortir progressivement du nucléaire. Historiquement, les communistes ont une relation amicale, je vais dire ce mot à défaut d'un autre, amicale avec le nucléaire français. Êtes-vous désormais favorable à ce que des réacteurs soient fermés, 8 ou plus, et qu'on aille même le plus vite possible, Pierre-Laurent?
Le plus vite possible, non. Et je vais vous dire pourquoi. Là aussi, c'est un problème global. Il faut savoir comment on va répondre aux besoins énergétiques du pays. Ce qui nous a conduit à une époque, il y a très longtemps, à être favorable au nucléaire, c'était que c'était une politique cohérente d'indépendance énergétique de la France. Et aujourd'hui, il faut, c'est la même chose, se poser la question globalement. Pour produire de l'électricité sans augmenter les émissions de gaz à effet de serre, nous considérons que pour en tout cas plusieurs décennies encore, nous aurons besoin de nucléaire. Donc il faut un mix énergétique dans lequel il y aura du nucléaire. Il y a beaucoup de choses à dire sur la manière dont on conduit la politique énergétique nucléaire en France aujourd'hui, avec le recours à la sous-traitance et l'éclatement
d'EDF.
Mais
donc les fermetures de sites, de réacteurs.
Par exemple, on dit il faut développer à fond la voiture électrique pour produire moins. Mais si on développe la voiture électrique, il faudra un réseau électrique capable de répondre. J'étais au salon de l'automobile, je discutais avec les constructeurs automobiles de cette question, avec les organisations syndicales. Ils disent, si demain matin, tout le monde avait une voiture électrique, le réseau ne tient pas le coup. Donc si on veut être cohérent, on se dit on développe la voiture électrique ou la voiture hybride pour arrêter le diesel, par exemple, ce qui est une politique vers laquelle il faut s'engager, et là, le plus vite possible. Mais à ce moment-là, il faut se poser la question de la production électrique. Et on aura besoin, à notre avis, de nucléaire, parce que les énergies renouvelables intermittentes ne suffisent pas à répondre à ça.
58 réacteurs nucléaires, on va fermer Fessenheim, ça paraît à peu près sûr. Il ne faut pas en fermer d'autres d'ici 2035 ?
À condition, si on en ferme d'autres, il faut prouver que les alternatives qu'on développe sont capables de répondre dans de bonnes conditions et des bonnes conditions de sécurité à la production. Regardez ce qu'a fait l'Allemagne. Ils ont été très vite dans cette direction. Ils ont fait exploser leur production charbonnière et tout le monde dit qu'écologiquement, c'est une catastrophe. Donc, si on veut des alternatives durables à ça, ça ne se fera pas. C'est faux de dire, moi je crois que ce n'est pas vrai de dire, qu'en 5, 10, 15 ans, on va régler le problème et on va remplacer le nucléaire par autre chose.
Pourtant, il y a l'urgence écologique.
Oui, mais attendez, mais l'urgence écologique, c'est elle porte principalement sur la question du climat. Et le nucléaire n'est pas responsable de cette question. Le nucléaire pose une autre question, qui est sérieuse, qui est celle de la sécurité, avec laquelle on ne peut pas jouer, ça c'est clair, et la question du traitement des déchets. Donc il y a des questions écologiques à se poser aussi dans ce domaine-là. Mais la question du climat et la question du nucléaire n'ont pas de lien, même si elles en ont un, c'est que le nucléaire ne produit pas de gaz à effet de serre.
Mais en tout cas, votre voix est singulière dans le paysage qui consiste à dire, de la part de tout le monde, il faut en sortir le plus vite possible. Des trois scénarios sur la table pour le gouvernement, c'est le premier qu'il faut saisir, c'est-à-dire 2030, pas 2035, pas 2040, vous semblez ne pas partager ce sentiment d'urgence.
Oui, mais non, je partage totalement le sentiment d'urgence climatique à fond. Et justement parce que je le partage, je dis ce que je dis sur la question énergétique. Et vous savez, les gens qui sont prêts à un débat sérieux sur ces questions ne prennent pas du tout les communistes pour des... J'ai souvent discuté de cette question, y compris avec Nicolas Hulot, et qui est quelqu'un avec lequel on peut avoir un dialogue de fond sur ces questions.
Stéphane est au standard. Bonjour et bienvenue.
Bonjour France Inter.
On vous écoute, Stéphane.
Alors, Monsieur Laurent, vous, en même temps, vous critiquez le tout en même temps du gouvernement, mais en même temps, vous-même, vous dites qu'il faut faire quelque chose pour l'environnement, mais vous êtes pour le productivisme. Est-ce que vous pensez que sur une base qui fait l'unanimité au sein du monde scientifique, qui est une base de 1700 kg équivalent CO2 par an et par habitant, vous pensez que c'est soutenable, votre discours ? En même temps, c'est le en même temps, vous dites en même temps que le gouvernement mélange tout, mais vous-même, vous n'êtes pas clair. Me semble-t-il, la solution ne serait pas peut-être d'aller vers de la sobriété, ce qui demanderait une remise en cause totale et complète de notre mode de production.
Merci Stéphane pour cette question. Est-ce qu'on peut être en même temps l'un et l'autre ? Pierre-Laurent vous répond.
Mais je ne suis absolument pas productiviste. Nous avons rompu avec le productivisme et le consumérisme, et c'est dans nos têtes à outrance du monde capitaliste actuel. Et effectivement, je pense qu'il faut un mode de développement productif totalement différent. Et il y a un chapitre entier du texte que nous sommes en train de discuter dans notre congrès qui porte cette question d'une refonte du modèle productif pour aller vers d'autres conceptions et de la production et de la consommation.
On est au standard maintenant avec Aurélie. Bienvenue sur Inter.
Bonjour à tous. Bonjour Monsieur Laurent.
Bonjour.
Je voulais savoir si vous partagez le contexte suivant. D'un mouvement qui était apolitique, les Gilets jaunes sont devenus de plus en plus infiltrés par l'extrême droite. On assiste à des agressions homophobes, racistes. Hier, il y a même eu des dénonciations de migrants, ce qui m'a profondément choquée. Est-ce que vous ne pensez pas que ce mouvement, finalement, est en train de dériver complètement vers une tendance fascisante, en fait ?
Merci Aurélie pour cette question. Pierre, sur l'application France Inter, pourquoi les Gilets jaunes se rapprochent du Rassemblement National et pas du Parti communiste ? Pierre Laurent ?
Non, mais je vois effectivement, comme vous, avec inquiétude, ces incidents. Et c'est clair, qu'il y a des forces politiques et des militants qui essayent d'instrumentaliser cette colère populaire. Personne n'est dupe, enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas dupe de ça. Donc, je ne confonds pas la colère populaire sur le pouvoir d'achat qui a été à l'origine de ce mouvement et les instrumentalisations politiques à laquelle se livrent les uns et les autres. Et d'ailleurs, personnellement, j'évite tout ce qui pourrait ressembler à une instrumentalisation politique. Donc, je pense la majorité de ceux qui ont porté un gilet jaune ne veulent pas.
Samedi, Pierre-Laurent, un rassemblement est prévu. En tout cas, les gilets jaunes appellent à un rassemblement à Paris. Certains membres de la France insoumise ont pu prendre samedi dernier part à différentes mobilisations. Est-ce que vous l'avez compris ? Est-ce que vous, samedi, vous pourriez le faire, Pierre-Laurent, comme communiste, vous ou vos proches, être place de la Concorde, si c'est là que ça se passe, à Paris, aux côtés des gilets jaunes ?
D'abord, samedi, je serai au congrès du Parti communiste, parce qu'on va être en congrès pendant 3 jours. Si j'étais dans la rue samedi après-midi, j'irais d'abord et avant tout à la manifestation contre les violences faites aux femmes.
Place de la Madeleine, si je ne m'abuse.
Qui a lieu ce jour-là, et qui est pour moi la grande manifestation du 24 novembre. Mais d'ailleurs, j'appelle
Madeleine,
à y
Concorde,
participer.
C'est pas très très loin, hein, excusez-moi.
Mais je crois que la préfecture leur a demandé de changer un peu le
parcours. Mais est-ce que vous iriez rejoindre les gilets jaunes?
Mais il y a des barrages, dans des initiatives des militants communistes qui ont participé à certaines de ces opérations. Je le répète, on voit bien que dans la manifestation de samedi, il va y avoir aussi des tentatives d'instrumentalisation politique. Moi, j'ai pas envie de me livrer à ça et je vais pas manifester aux côtés de Laurent Wauquiez ou de je ne sais quel dirigeant du Front National.
Pierre-Laurent, à La Réunion, le mouvement est parti des gilets jaunes, mais là, il est devenu extrêmement violent, avec un couvre-feu, des administrations, des services publics fermés. C'est du jamais vu depuis 30 ans. L'exécutif promet un maintien de l'ordre intraitable contre ceux qui pillent, qui cassent. Est-ce que c'est devenu incontrôlable?
Mais est-ce qu'on se rend compte que la situation des dom-toms, de La Réunion, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, est-ce qu'on se rend compte à quel point elle est violente? Quand vous avez, dans ces départements d'outre-mer, il y a eu des événements très importants en Guyane il y a quelques mois, mais en vérité, la situation, elle explosive en permanence dans ces territoires d'outre-mer. Pourquoi ? Parce que il y a 40% de la jeunesse au chômage. Rien n'est fait pour le développement endogène de ces territoires. On prétend rétablir l'ordre, mais où et quand on prend la mesure de la situation de détresse sociale qu'il y a dans ces territoires ? Et si le gouvernement continue à ne vouloir rien entendre, ni les racines de la colère des gilets jaunes, ni ce qui se passe à La Réunion, ni ce qui se passera peut-être demain dans les quartiers populaires de nos villes, eh bien, il est à côté du monde réel. Il y a une France qui souffre profondément, qui ne voit pas d'avenir, ni pour elle, ni pour la jeunesse de demain, dans les politiques qui sont menées aujourd'hui. Et on a des gouvernements en France, en Europe, qui disent on continue avec les mêmes politiques. Eh bien, cette marmite-là, elle est en train d'exploser. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que si d'un côté le gouvernement continue et de l'autre côté la gauche ne se redresse pas, eh bien ça va ouvrir la porte, comme on le voit en Europe, à des mouvements politiques extrêmement inquiétants. Donc il faut prendre la mesure de ça pour changer de cap politique et le plus vite possible.
Alors précisément, la Commission européenne va retoquer le budget italien, entamer une procédure de sanctions. Est-ce que, selon vous, l'application des règles européennes qui sont connues et qui s'appliquent à tous les pays membres, est-ce que l'application de ces règles est un déni de démocratie?
Moi, je crois que les gouvernements devraient rester maîtres, effectivement, enfin les gouvernements et les parlements devraient rester maîtres de leurs choix budgétaires, et que c'est un problème à la manière dont fonctionne actuellement l'Union européenne, sur des orientations qui, on le voit bien, sont rejetées de plus en plus par les différents peuples européens. Mais dans cette affaire de l'Italie, pour prendre le cas, rien ne va, ni l'attitude de la Commission européenne, ni le budget qui est présenté par Salvini, hein, qui n'est pas un budget social, parce que c'est un budget qui creuse les déficits pour continuer aussi à faire lui aussi des cadeaux aux patronats, aux multinationales. C'est un budget, le budget Salvini, compatible avec Berlusconi. Donc c'est ce face-à-face, cet étau dans lequel on essaye de nous enfermer en Europe, entre d'un côté les libéraux et de l'autre côté les forces populistes d'extrême droite, qui est un très grave danger. Et il faut au contraire des politiques sociales qui devraient être menées dans les pays, mais accompagnées par les politiques européennes, à l'inverse de ce qu'on fait aujourd'hui.
Pierre-Laurent, merci.
Merci à vous.
Et bon congrès du Parti communiste à partir de demain et pour tout le week-end.
Merci.
Et bonne manifestation samedi, place de la Madeleine, puisque vous nous avez dit où vous seriez.